de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, samedi 28 décembre 2019. D'abord, nous allons vous présenter le kaléidoscope 2019, précisément à partir de janvier jusqu'à juin 2019. Pour la rubrique suivante, nous allons vous présenter magazine culturel, l'Indonésie en couleur et magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutez maintenant le kaléidoscope de janvier jusqu'à juin 2019. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
La voix de l'Indonésie présente le kaléidoscope 2019. Nous présentons des événements importants pendant 2019 et nous commençons par des événements de janvier à juin présenté par Maisaro et Erna Giniria.
Bonsoir à tous, nous nous rencontrons de nouveau dans le kaléidoscope 2019. Le 2 janvier, le président Joko Widodo rend visite aux victimes du tsunami du détroit de Sonde à Kalianda, dans le sud de Lampung. À cette occasion, il a déclaré que le gouvernement noterait des maisons des résidents endommagés par la catastrophe afin de préparer des plans de reconstruction. Après avoir examiné l'impact du tsunami dans le village Waimuli de l'Est, le district de Raja Basa, Lampung du Sud, le président a demandé au ministre des Travaux publics et du logement public, Basuki Hadi Mulyono, de concevoir la reconstruction des maisons des résidents endommagés par le tsunami. La reconstruction des maisons endommagées par la catastrophe est effectuée dans une zone située à environ 400 mètres de la côte, plus près du mont Raja Basa. Dans le village, le président et les fonctionnaires ont fait le tour pour voir les maisons des habitants endommagés par le tsunami de détroit de la Sonde, frappé le 22 décembre 2018. À la même date, le magazine financier international The Banker a nommé la ministre indonésienne de finances, Sri Mulyani Indrawati, comme ministre des Finances de l'année 2019. Le titre a été attribué grâce aux réalisations du ministère des Finances indonésien, qui est considéré comme ayant réussi à surmonter divers défis économiques tout au long de 2019. Il y a plusieurs critères qui font que le banquier choisit Sri Mulyani. Parmi eux, elle est en mesure de maintenir la résilience de l'économie du pays malgré l'existence des chocs tels que les catastrophes naturelles tout au long de 2018. Deuxièmement, l'existence de la modernisation de la réponse du pays aux catastrophes naturelles à travers le financement des risques et des garanties ou d'assurance pour accélérer le processus d'assistance et de secours post-catastrophe. Troisièmement, réduire la taxe sur les services d'exportation de l'Indonésie en annulant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, afin de stimuler la performance du secteur commercial. The Banker est un magazine financier international appartenant au Financial Times basé à Londres, qui est la principale source de données et d'analyse dans le secteur financier et bancaire. Le 25 janvier, l'Indonésie a marqué son nouveau histoire sur la scène africaine internationale en tant que premier archipel asiatique au monde qui possède le 6e schéma de séparation de trafic ou TWS. Le Réunion a approuvé et ratifié le schéma de séparation de trafic au détroit de Sonde et au détroit de Lombok proposé par l'Indonésie. L'accord a ensuite été adopté lors de la 101e réunion du Comité de la sécurité maritime, NSC, de l'OMI en juin. 4 février, la Ministre indonésienne de la Justice et des Droits de l'Homme, Yelson Malawi, a signé un accord d'entraide judiciaire avec la Ministre suisse de la Justice, Karen Keller-Sutter, à Bern, en Suisse. L'accord a été signé après deux séries de négociations, à savoir à Bali et à Bern, en Suisse. Cet accord prévoit entre autres une assistance juridique en matière de suivi de gel jusqu'à la confiscation des avoirs résultant d'un crime. La ministre Yelson Malawi a déclaré que les accords à l'entrée judiciaire pourraient être utilisés pour lutter contre les défis fiscaux. Le 16 février, l'ambassadeur des Pays-Bas en Indonésie, Bob Swartbol, a remis le prix Prince Claus 2008 à l'écrivain indonésien Eka Kurniawan à Erasmus Suisse, Jakarta. Auparavant, en décembre 2018, Eka Kurniawan avait reçu ce prix du Royaume des Pays-Bas lors d'une cérémonie officielle au Palais Royal d'Amsterdam. Lors de son discours de la cérémonie de remise du prix Prince Claus 2008 à Jakarta, l'ambassadeur des Pays-Bas indonésiens a expliqué la raison du jury avait choisi Eka Kurniawan comme récipiendaire du prix Prince Claus. Son écriture combine des éléments de tradition locale, des histoires orales, du réalisme magique, des arts martiaux indonésiens et des bandes dessinées d'horreur pour dépeindre les expériences multicouches des gens. Ses romans, nouvelles, essais, scénarios de films et romances illustrés brisent les barrières sociales et atteignent divers auditoires de manière divertissante grâce à des histoires locales révélant de terribles vérités historiques. Chaque année, le prix Prince Claus, organisé par la Fondation Prince Claus pour honorer les réalisations exceptionnelles dans le domaine du développement culturel. Ce prix est attribué à des individus, groupes ou organisations dont les activités peuvent avoir un impact sur la société. Eka Kurniawan, un écrivain indonésien né à Tasikmalaya dans l'Ouest de Java, a été choisi comme l'un des récipiendaires des prix Prince Claus 2018 dans la catégorie littéraire, ensemble avec les personnes de divers pays qui ont reçu des prix dans les domaines du théâtre, de l'architecture et de l'urbanisme, du film, des médias, de la photographie et de la danse. Le 28 février, le gouvernement indonésien impose officiellement des droits nuls aux produits importés par les Palestiniens. Le ministre indonésien du Commerce à cette époque, Enggartias Tolukita, a déclaré que le tarif zéro s'appliquait aux produits de base d'origine palestinienne et sans étude de faisabilité, comme les accords commerciaux en général avec d'autres pays.
Kalau namanya berteman, namanya bersaudara, ya nggak ada untung rugi. Bahkan tadi Bapak Wakil Presiden menegaskan lagi.
Nous engageons à maintenir nos relations commerciales et notre fraternité avec la Palestine. La conséquence, l'ancien vice-président Yusuf Kala a souligné que l'Indonésie n'en poserait aucun droit de douane sur les produits d'importation palestiniens. Pendant ce temps, l'ambassadeur de Palestine à Jakarta, Zuhair Al-Shun, s'est félicité de la décision du gouvernement indonésien tant attendu. Il a également soumettre une liste d'autres produits qui sont considérés comme potentiellement être donnés l'élimination des tarifs en Indonésie. La Palestine est le 164e pays de destination des exportations indonésiennes. Les principaux produits d'exportation vers la Palestine sont le café, le thé, les pâtes, le pain, le parfum et le savon. Cependant, la Palestine est le 162e pays source d'importation pour l'Indonésie, dont le principal produit d'importation est les dattes. Le 3 mars, le groupe de travail opérationnel Tinombala Poso de l'unité de TNI a réussi à abattre l'un des membres terroristes de Mujahidin l'Indonésie orientale et a arrêté un autre homme en vie après une fusillade à Poso Pesisir, Sulawesi Central. En outre, les autorités ont également trouvé un fusil de type M16 avec entière et l'arrestation de deux personnes sur la liste des personnes recherchées dans le cas du terrorisme. Le nombre de la liste s'achève, 16 des membres de la force opérationnelle des opérations de Nombal-Poso sont encore 13 personnes. Le 4 mars, un accord de partenariat économique global au CEPA entre l'Indonésie et l'Australie a été officiellement signé par le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tirta Lukita, et le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, Simon Birmingham. Cet accord élimine 100% des droits de douane applicables aux marchandises de l'Indonésie à l'Australie et 94% des droits de douane applicables aux marchandises de l'Australie à l'Indonésie. Dans le secteur de l'investissement et des services, les deux pays peuvent avoir un meilleur accès, y compris le mouvement de la profession. Le 5 mars, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le commissaire général de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, Pierre Krahenbul, ont signé un accord sur les contributions humanitaires de l'Indonésie aux réfugiés palestiniens de l'ex-Gazana au camp de Jerash en Jordanie. Une contribution humanitaire indonésienne d'un million de dollars américains a été fournie pour aider les réfugiés ayant des besoins alimentaires et sanitaires. Le 11 mars 2019, le tribunal malais a libéré Siti Aisyah, une citoyenne indonésienne accusée du meurtre du demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong-un, Kim Jong-nam, en 2017. Siti Aisyah et un citoyen vietnamien nommé Doan Thi Huong ont été accusés du meurtre de Kim Jong-nam en l'empoisonnant en février 2017. Pendant ce temps, l'avocat de Siti Aisyah, Goy Sun Seng, a déclaré que son client serait de nouveau jugé s'il y avait de nouvelles preuves. Le 10 mars, le gouvernement indonésien a lancé le programme de partenariat national pour une action plastique. Cette initiative fait partie de l'engagement du ministère indonésien de la coordination maritime de réduire jusqu'à 70% les déchets plastiques marins en 2025.
Dan ini sebenarnya tindak lanjut daripada pertemuan kita di Bali.
C'est un fait en suivi de notre réunion à Bali. Oui, lors de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale, il y a le forum Trihitakarana où ils ont réussi à collecter des fonds pour 10 milliards de dollars. Et comment est-ce que cette implémentation, maintenant l'utilisation de ces fonds dans des projets que nous sommes en train d'observer pour être réalisés? L'objectif du gouvernement de réduire le plastique est de 70% jusqu'en 2025. Nous travaillons vraiment. Comme tenu de cet objectif ambitieux, nous devons travailler dur, mais si vous regardez le programme actuel, il y a l'amélioration dans l'éducation, les programmes scolaires, puis notre plan d'action sur le terrain. Je pense que c'est très promoteur. Il a également été salué que nous disposions déjà d'un plan d'action et que nous l'avons déjà publié. Le 16 mars, des grandes inondations et des glissements de terrain se produisent à Sentani, Jayapura, en Papouasie. L'Agence nationale de la gestion des catastrophes, BNPB, a enregistré 104 décès en raison de ces catastrophes. L'inondation a également provoqué 9691 personnes ont été déplacées, dispersées dans 18 points de réfugiés. 375 maisons endommagées gravement, 5 unités de croûte endommagées gravement, 8 écoles endommagées lourdement, 104 unités de magasins endommagées lourdement, 4 ponts endommagés fortement et 4 routes endommagées lourdement. Le 24 mars, le président Joko Widodo a inauguré le mode de transport en commun rapide MRT de la première phase du Lebak Bulus, le rond-point de l'Hôtel d'Indonésie, dans le quartier du rond-point de l'Hôtel d'Indonésie à Jakarta. Après l'inauguration, Jokowi ada klake kelinugasong de MRT naksal lake pas lemang la sirkulasyong de transfer angkomang me de beang de regal mang in nouvelle phase de progrès de la culture de transfer Indonesia en particulier dans la capitale Jakarta.
Jumlah anggota gerakan pramuka Indonesia yang mencapai 25 juta orang
C'est la nouvelle culture de transport que nous continuerons d'introduire et de socialiser dans la société. C'est une nouvelle civilisation. Nous devons être optimistes pour changer les habitudes des gens en utilisant les transports en commun. Comme par exemple, tout d'abord, les gens doivent faire la queue avant d'entrer dans MRT. Deuxièmement, les gens ne doivent pas jeter leurs déchets dans les stations de MRT et dans le MRT. Troisièmement, nous devons être ponctuels. MRT est la nouvelle culture du transport. Il n'y aura pas d'impact significatif si nous ne respectons pas les règles. Par conséquent, nous devons maintenir et prendre soin de notre MRT. Nous poursuivrons immédiatement la construction d'autres projets de MRT.
Nous passons à avril. Le 1er avril, le président Joko Widodo a inauguré trois zones économiques spéciales. Les trois zones économiques spéciales sont les zones économiques spéciales Bitung, Maloy et Morotai. L'inauguration des trois zones économiques spéciales a eu lieu à l'aéroport Samratulangi Manado, Sulawesi Nord. Lors de l'inauguration, le président a déclaré que le fonctionnement des trois zones économiques spéciales à l'est de l'Indonésie visait à attirer des investissements en Indonésie, à accroître la compétitivité des produits indonésiens et à assurer un développement équitable. Le 9 avril, l'Indonésie a été déclarée meilleure destination touristique halal du monde en 2019, la norme du Global Muslim Travel Index 2019 dépassant 130 destinations du monde entier. Le directeur général de Crescent Rating, Fazal Bahardin, lors de la publication du rapport du Global Muslim Travel Index 2019 à Jakarta, a déclaré que l'agence de notation Mastercard Crescent avait classé l'Indonésie au premier rang des standards de l'indice mondial du tourisme musulman avec une note de 78, ensemble avec la Malaisie, se situant au sommet. En tant que meilleure destination touristique halal au monde, l'Indonésie a enregistré une augmentation graduelle par rapport au 6e rang en 2015, au 4e rang en 2016, au 3e rang en 2017, au 2e rang en 2018 et enfin au 1er rang du Global Muslim Travel Index en 2019. Le 10 avril, l'Indonésie et les États-Unis commémorent 70 ans des relations diplomatiques entre les deux pays avec le lancement de timbres spéciaux au bureau du ministre des Affaires étrangères à Jakarta. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, A.M. Fahir, a déclaré que 70 années de relations entre les deux pays constituaient un élan pour une interaction concrète dans tous les domaines. À la même occasion, l'ambassadeur des États-Unis, Joseph R. Donovan, a déclaré que l'Indonésie était un partenaire stratégique très important pour la poursuite de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et les États-Unis. Selon lui, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été construites sur la base de mêmes valeurs démocratiques et des mêmes intérêts, afin de créer un avenir radieux. Le 14 avril, le président Joko Widodo a effectué une visite d'État en Arabie Saoudite. L'un des résultats de la visite d'État a été l'ajout du quota de Hajj pour l'Indonésie, un quota de 10 000 Hajj. En outre, les deux pays ont également convenu de plans supplémentaires pour l'investissement de l'Arabie Saoudite en Indonésie. Le 17 avril, le peuple indonésien a tenu une élection générale simultanée. En plus d'élire le président et le vice-président, l'élection de 2019 est également un moment propice pour le peuple indonésien d'élire les membres du Parlement, du Conseil des représentants régionaux, des parlements provinciaux et des parlements de régence ou ville. L'élection générale d'avril 2019 a été rejointe par deux candidats au poste de président et vice-présidentiel, à savoir Joko Widodo Ma'ruf Amin et Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Le nombre total d'électeurs a atteint 190 779 969 personnes. Le 22 avril, la régence Gianyar, dans la province Bali, devient la première ville d'artisanat du monde en Indonésie. Le prédicat et le prix ont été remis directement par Gada Hijawi Kudumi, présidente du Conseil mondial de l'artisanat, et Mufida Yusuf Kala, président du Conseil national de l'artisanat de Kranas, au régent adjoint de Gianyar, Anak Agung Gede Mayun. La remise des certificats a eu lieu à Bali, Agung Theatre Show, Bali Safari and Marine Park. Le même jour, le ministère de l'Agriculture a officiellement ouvert le premier musée de l'agriculture en Indonésie au centre de la ville Bogor, Jawa West. Le musée est censé être le plus grand musée agricole en région de l'Asie du Sud-Est. Nous passons au Mali. Le 7 mai, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a présidé une session publique du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a discuté de la formation et du renforcement des capacités des missions de maintien de la paix des Nations Unies au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Une session publique du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème « Semer les graines de la paix, formation et renforcement des capacités pour améliorer la sécurité et l'efficacité de la force de maintien de la paix des Nations Unies » s'est tenue dans le cadre du leadership de l'Indonésie au Conseil de sécurité tout au long du mois de mai 2019. Ce thème s'inscrit dans les progrès de l'Indonésie sur la scène internationale. L'un des principaux pays contributeurs aux missions de maintien de la paix des Nations Unies. Le 21 mai, la Commission électorale générale KPU a désigné Joko Widodo et Ma'ruf Amin candidats du président et du vice-président pour remporter l'élection présidentielle de 2019. Cette décision a été communiquée par le KPU lors de la séance plénière organisée dans le bâtiment du KPU. Selon le commissaire de la KPU, Evi Novida Ginting Manik, le père Joko Widodo Ma'ruf Amin a remporté 85 607 croissant soixante deux voix valables, tandis que Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, a remporté 66 650 239 voix valables. La réunion plénière s'est tenue après que la KPU ait achevé la récapitulation nationale dans 34 provinces et 130 commissions électorales étrangères PPLN. En détail, Jokowi Amin a excellé dans 21 provinces, tandis que Prabowo Sandi a gagné dans 13 provinces. Nous passons à juin. Le 1er juin, l'épouse du 6e président Susilo Bambang Yudhoyono, Annie Yudhoyono, est décédée à Singapour à l'âge de 67 ans. Annie Yudhoyono suit un traitement médical depuis plusieurs mois en raison d'un cancer du sang à l'hôpital universitaire national de Singapour. Le corps d'Annie Yudhoyono a été enterré dans le cimetière des héros Kalibata. Du 10 au 15 juin, le gouvernement indonésien organise le rallye voile international Sail Tuna Tuna. Au total, 32 navires de croisière étrangers ayant participé au Sail Tuna Tuna 2019 ont été invités à profiter de la beauté de plusieurs attractions touristiques, notamment Batu Sindu, l'île Senua, la Grande Mosquée Natuna et le parc Alif Stone. Le 18 juin, l'inauguration du Centre de coopération en matière d'infrastructure Corée-Indonésie. La création a été initiée, entre autres, par la Corporation coréenne d'infrastructure et de développement urbain Outre-mer, KIND, une institution sud-coréenne soutenant des projets de partenariat public-privé hors de Corée. Le vice-président de KIND, Taekwon Seo, a déclaré qu'avec l'inauguration du Centre de coopération en matière d'infrastructure entre la Corée et l'Indonésie, ou un bureau de KIND à Jakarta, il est à espérer que les investissements et la coopération entre les deux pays pourront être étendues. Le 19 juin, le ministère indonésien du Commerce a organisé un séminaire intitulé « Séminaire de la CEAP sur les meilleures pratiques de mise en œuvre des accords de facilitation des échanges dans les économies de la CEAP, opportunités et défis auxquels ont assisté 125 participants des pays membres de la coopération économique Asie-Pacifique ou CEAP. Le personnel expert du ministre du Commerce en Relations Internationales, Dodi Edward Alegian Badung Bali, a déclaré que ce séminaire visait à accroître la capacité des membres de la CEAP de respecter leurs engagements en matière d'accords de facilité commerciale, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures d'importation et d'exportation conclues et convenues à Bali en 2013. Le 19 juin, la région de la baie Saleh, l'île Moyo et le mont Tambora ou Samota sur l'île Sumbawa, Nusa Tenggara Ouest, était officiellement désigné réserve mondiale de la biosphère par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou l'UNESCO. La déclaration sur la détermination de la réserve de biosphère a été faite lors de la 31e session du Conseil international de coordination humaine et du programme de la biosphère qui s'est tenu à Paris, en France. Le 23 juin, le président Joko Widodo participe au 34e sommet de l'ASEAN en Thaïlande. Le sommet a approuvé l'adoption des perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique telles qu'elles ont été proposées par l'Indonésie. Après l'ouverture du 34e sommet de l'ASEAN, le président Joko Widodo a participé à la retraite des dirigeants de l'ASEAN au 12e sommet du triangle de croissance Indonésie, Malaisie, Thaïlande et au 13e sommet Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines de la zone de croissance de l'ASEAN SBIMP EAGA. Auparavant, le président avait également assisté à la réunion des dirigeants de l'ASEAN avec le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN, ASEAN BAC. Jokowi a également assisté à la réunion des dirigeants de l'ASEAN avec le représentant des jeunes de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN. Le président a également eu des entretiens bilatéraux avec le premier ministre thaïlandais, le conseiller d'État du Myanmar, le premier ministre vietnamien, le président des Philippines et le premier ministre singapourien. Le 24 juin, l'Agence nationale de gestion des catastrophes a remporté le prix des Nations unies pour le public UNPSA 2019. Le premier prix a été attribué aux innovations de petabencana.id, incluses dans la catégorie assurée des approches intégrées dans les institutions du secteur public. Le prix faisait partie de la réunion du Forum de la fonction publique des Nations Unies à Bakou, en Azerbaïdjan. Shafruddin, ministre de la réforme de l'administration et de la réforme de la bureaucratie, a déclaré à cette occasion que le prix était une preuve manifeste que l'Indonésie était de plus en plus sensible au progrès des services publics. Selon lui, avec le prix de l'UNPSA, l'Indonésie sera mieux connue à l'avenir par le monde international. Les 28 et 29 juin, le président Joko Widodo a assisté au sommet du G20 à Osaka, au Japon. À cette occasion, le président Joko Widodo a évoqué deux questions stratégiques, à savoir encourager l'innovation dans l'économie numérique pour surmonter les disparités et rappeler les conditions globales assombries par l'incertitude. En plus d'assister au sommet du G20, le président Joko Widodo a également tenu une série de réunions bilatérales avec un certain nombre de chefs d'État.
C'était le Kaléidoscope de janvier à juin 2019. Demain, nous présentons des événements de juillet à décembre 2019, présentés par Mohamed Oudry et Tiwi Shakila. À bientôt.
Sakit. hatimu dengannya. Ini malam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, oh, 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 sakit melihatmu dengannya. Tinggal melupakanmu saja, janji diri sendiri. Terakhir malam ini.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel et cette fois nous allons vous présenter Hutan Kota by Plataran. Le besoin de tourisme dans le parc urbain est de plus en plus demandé, non seulement pour la promenade ou faire des sports. Le parc ou les forêts de la ville peuvent également être des lieux de rencontres amusants. Cette expérience est offerte par Hutan Kota Plataran. Situé dans le complexe de Gelora Bung Karno, Jakarta, cet endroit peut être un bon endroit pour manger au milieu d'un parc de la ville. pabrik insupervisi dekat 3,5 hektar Agglora Bung Karno Jakarta, pelataran Indonesia, wajere infoke urban, kuvrang insupervisi de 3,2 hektar. Selonong de hutan kota bayi pelataran, sezon aite uvet au publik le 19 Desember. Les gens de Jakarta et les touristes nationaux et étrangers peuvent profiter de divers endroits cosmopolites, uniques, exotiques, verts avec les nuances de la culture et de l'histoire indonésienne en un seul endroit. Hutan Kota Bayi Pelataran, qui est aussi communément appelé Hutan Kota Pelataran ou la forêt de la ville de Pelataran, est situé dans le complexe de Bung Karno à Jakarta, avec une superficie de 3,2 hectares. Il est situé à côté de la forêt urbaine de Gelora Bung Karno Jakarta et accessible par les portes 5 ou 7. Il est situé dans le centre de la ville, ce qui rend cette attraction facilement accessible en utilisant les transports publics ou privés. Entrez par la porte 7, vous verrez immédiatement un bâtiment avec des ornements uniques et Hutan Kota Pelataran ou la forêt de la ville de Pelataran possède des salles uniques. Il y a la salle de Garuda, la salle de Indonesia Raya, la salle de Merah Putih et la salle Ruang Indonesia Raya possède une terrasse qui peut être utilisée également ouverte. Le parc peut également être utilisé pour divers événements tels que des événements familiaux. Il y a aussi un restaurant qui convient aux milléniaux et aux Gen Z. Il y a un toit qui surplombe les bâtiments métropolitains et peut être utilisé pour des réunions avec des amis. Hutan Kota Pelataran ou la forêt de la ville de Pelataran est également équipé d'une salle amphithéâtre. Cet endroit peut être utilisé pour des concerts ou d'autres événements, comme par exemple un défilé de mode. Pour ceux d'entre vous qui veulent se détendre, ce forêt a un mur d'expression et de beaux jardins qui conviennent aux photographies. Il y a aussi une aire de jeu pour animaux Pelataran où vous pouvez amener vos animaux de compagnie pour y jouer. Il y a aussi une piste de jogging et un terrain de basket pour ceux d'entre vous qui vont faire de l'exercice. Et aussi le moussola. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Oh.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur. La jeune athlète Karisma Evitiarani a réussi à faire de l'Indonésie une célébrité au championnat du monde de para-athlétisme 2019. Non seulement elle a réussi à remporter une médaille d'or, l'athlète en provenance de Simo Boyolali a également été enregistré comme un nouveau record dans la catégorie qu'elle suivait. Auparavant, elle avait participé au tournoi du championnat du monde de para-athlétisme 2019 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 7 au 15 novembre 2019. Cette athlète de 18 ans, présentant des difficultés physiques, avait de meilleures performances que deux autres athlètes italiens et belges, Monica Graziana Contrafatto et J.T. Heinen. Il a obtenu sa médaille d'or au 100 mètres féminin T63. La réalisation des filles a également été appréciée par le gouvernement local. Evi a été invité par le gouverneur de Jawa Central, Ganjar Pranowo, à se rendre à son bureau à la rue Pahlawan, à Semarang. Evi est venu avec deux autres athlètes, à savoir Saptoyoga Purnomo et Tara, qui a remporté la médaille d'or à la compétition Pepa Pernas en 2019. À cette occasion, Evi était ravie de raconter son expérience du match auquel elle a participé à Dubaï. Elle a également eu le temps de montrer l'action lors d'une compétition à Dubaï, à Ganjar. Le gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, a déclaré que son parti continuerait à soutenir et à faciliter les athlètes comme Evi et ses amis dans sa région. Il espère que les jeunes athlètes comme eux pourront continuer à montrer leur réalisation pour pouvoir inspirer d'autres personnes handicapées. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Teman untuk bercanda, bermain penuh tawa, siang sore dan malam, masih jelas di kepala, masa indah kecil kita, 10 tahun sudah, senang setiap apa saja, masih jelas di kepala, tak akan pernah ku lupa, kecil sampai dewasa, kau sahabat setia. Bisa bilang apa jika hati berbicara? Feels so way too.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Cette fois-ci, je vous présente une chanson intitulée Sampul Surat, qui signifie couverture de lettres. Cette chanson de Keroncong a été composée par Ismail Marzuki. Un compositeur indonésien qui a été très productif a créé des chansons à l'époque de la lutte indonésienne jusqu'en 1958. Mais ses œuvres peuvent encore être appréciées aujourd'hui. L'un d'eux est une chanson intitulée Sampul Surat, qui signifie couverture de lettres. Cette chanson raconte d'une personne qui attend des nouvelles de son amant depuis des années. Après 10 ans, la lettre de son amant est arrivée. Mais ce n'est que la couverture de la lettre. Bien que le cœur soit triste et déçu, il sauve quand même la couverture de la lettre comme souvenir. Bon, chers auditeurs, voici Didi Kempot, dont le titre est Sampul Surat.
C'était l'émission quotidienne en français. diffusé depuis Jakarta pour samedi 28 décembre 2019. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.